Entretien. Des mots, des histoires de vie et du temps pour les dire. Patrick Robert. De SIPA à SIGMA, du labo au grand reportage de guerre. Premier épisode.
Patrick Robert publie chaque heure compte aux éditions Éric Bonnier. C'est un passionnant pavé de 600 pages. Patrick Robert nous narre avec rigueur, précision et détail son parcours du laboratoire de SIPA Presse à ses reportages pour l'agence de presse Sigma. On commence à oublier qu'à la fin du XXe siècle, Sigma était l'agence photo la plus prestigieuse du monde. Celle à qui les grands magazines illustrés passaient toutes les semaines des commandes ou achetaient des couvertures en exclusivité. Patrick Robert est un photographe rare, authentiquement indépendant et qui, en toutes circonstances, sait garder son libre arbitre.
J'ai toujours fait de la photographie depuis que je suis adolescent. Je ne savais pas quoi faire de ma vie, en fait, parce que j'étais contrarié dans mes études. J'ai pas réussi mes études comme j'aurais aimé. Et une fois que j'ai fini mon bac professionnel, j'ai cherché un travail dans la photo. J'ai pas trouvé. Et comme il fallait que je gagne ma vie, j'ai accepté un travail de laborantin dans un laboratoire commercial. Et voilà, j'ai commencé à gagner ma vie comme ça. Et puis je m'ennuyais beaucoup. Et je suis tombé sur un article comparatif des laboratoires des agences photo. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler pour la première fois de Gamma, Sigma, SIPA et Magnum. Donc je me suis dit, voilà, ça a l'air plus intéressant, je vais explorer la possibilité de travailler avec eux, et j'ai été pris à SIPA comme laborantin. Je m'intéressais à l'actualité depuis adolescent, je regardais les journaux télévisés, je lisais les quotidiens depuis l'adolescence, je lisais les hebdos, donc j'étais sensibilisé à l'actualité, aux news, à l'histoire.
Et quand tu arrives à SIPA, c'est comment SIPA ?
Alors, je suis fasciné parce que tous les labos que j'avais connus avant, c'était des petits labos dans des caves étriquées avec un ou deux laborantins. Et là, j'arrive dans un laboratoire noyé de lumière, immense, avec une dizaine de techniciens. Et c'est sympathique. Et surtout, il y a une matière qui me captive tout de suite. La matière, c'est la photo de presse.
L'actu. Et le patron, le mythique patron de SIPA, Gushkin Sipayoglu, tu le trouves comment ?
Je le découvre à ce moment-là, et je le trouve évidemment sympathique et charismatique. Voilà, c'est un personnage extrêmement accessible et en même temps impressionnant par son aisance, sa carrure, sa notoriété. Mais il était extrêmement facile d'accès, et on rentrait dans son bureau sans frapper, la porte était tout le temps ouverte d'ailleurs, et c'était facile de communiquer avec lui.
Comment tu passes du labo au reportage ?
Alors très vite, j'ai compris que le labo, c'était pas pour moi, parce qu'en fait j'ai tout fait, mais j'ai beaucoup appris au labo, parce que je voyais ce que faisaient les autres, donc évidemment, c'est la meilleure école. De voir comment un reportage se construit. J'avais en plus à l'époque les photographes travaillaient en priorité en noir et blanc, donc je voyais les planches contact. Et l'intérêt de la planche contact, c'est qu'on voit la totalité du travail du photographe. On voit ses hésitations, on voit comment il tourne autour du sujet, on voit ce qu'il cherche, et puis après on voit la sélection de photos qui est faite par la rédaction. Et c'était intéressant de voir pourquoi la rédaction a choisi telle photo plutôt que telle autre avant ou telle autre après. Et donc ce travail d'analyse sur la matière brute qui était le négatif, c'était un travail extrêmement instructif, constructif. Et en fait, c'est une formation privilégiée. Très peu de gens ont accès à la matière brute des photographes.
Et ton premier reportage pour SIPA, c'est lequel ?
Alors, ça a été très compliqué parce que comme j'étais laborantin, j'avais l'étiquette laborantin et donc j'avais pas l'étiquette photographe. Et en France, malgré tout, l'étiquette compte beaucoup. Et donc j'étais catalogué laborantin et donc j'étais pas catalogué professionnels. Même s'il y avait des photographes totalement amateurs qui se pointaient à la rédaction avec des sujets nuls, ils étaient mieux considérés que moi, qui avais déjà une formation par le labo, enfin une sensibilité, une sensibilisation à la technique de la photo de presse. Donc j'ai commencé à faire, à ne travailler que les week-ends, et donc j'avais la semaine de libre, et ce qui me permettait de commencer à faire des photos comme amateur. Donc je faisais toutes les photos que je pouvais faire sans avoir de carte de presse, c'est-à-dire les manifs, il y en avait beaucoup déjà, les premières de spectacles, voilà. Enfin, j'essayais de m'infiltrer partout pour faire des reportages. Et puis, quand il y avait personne de SIPA sur le coup, j'essayais de les distribuer par SIPA. Ce qui était très difficile, parce qu'il y avait quand même ce filtre dissuasif d'avoir l'étiquette de laborantin sur le nez, sur le front. Donc j'ai commencé comme ça. Mais il faut dire que je suis resté que 9 mois en tout au labo, hein, compris la période où j'ai travaillé. Donc c'est relativement rapide, mais surtout dans la presse. Dans la presse, c'est très long, 9 mois en fait. J'ai commencé à faire donc les sujets que les photographes de SIPA ne faisaient pas, de façon à ne pas être écarté de fait, parce qu'il y avait déjà un photographe de SIPA sur place. Donc je suis allé plus loin, je commençais à voyager un petit peu, et puis à faire, par exemple, j'ai commencé à faire des photos en studio, puisque le photographe de SIPA ne travaillait pas en studio à l'époque. Et puis un jour, il y a eu un séisme à l'agence. Les 5 plus grands photographes qui faisaient du news à l'époque ont quitté l'agence d'un seul coup pour créer une filiale d'une agence de presse américaine.
Black Star France.
C'était l'agence Black Star France, oui. Pour moi, ça a été une aubaine parce que du coup, ils n'étaient plus là pour avoir la priorité sur moi. Et je me suis engouffré dans la brèche puisque j'étais déjà dans la maison depuis 4-5 ans et j'étais tout de suite volontaire pour partir sur l'actu internationale.
Et donc, tu te retrouves sur cette guerre. C'est quoi ton impression en arrivant ?
La guerre Iran-Irak, c'était très impressionnant, mais c'était aussi très frustrant, parce qu'on avait le droit de rien faire. On était bloqué à l'hôtel, on ne pouvait pas sortir sans escorte des autorités. Et même quand on sortait avec eux, on n'avait pas le droit de photographier tout ce qu'on voyait. Donc, c'était très, très frustrant. Mais quand même, c'était une guerre totale, une guerre... de front, une guerre de tranchées, c'était une guerre d'artillerie, et c'était avec beaucoup, beaucoup de victimes. Et donc, c'était très impressionnant pour moi. Je me suis tout de suite senti tout à fait à ma place.
Oui, là, tu n'avais pas de doute sur le fait que tu étais là.
Voilà, c'est ça. Je n'ai pas eu de doute sur ma motivation de couvrir ce genre d'événement.
Tu as couvert d'autres choses pour SIPA Presse à cette époque ?
Oui, alors j'ai commencé, je faisais tout ce que je pouvais. Hein. Mmh. J'ai commencé à aller en Libye, parce que Kadhafi se mesurait avec les Américains, il menaçait, puis surtout il sponsorisait le terrorisme. Enfin, il y a eu une campagne d'attentats dont on a eu la preuve que c'était commandité par la Libye. Et à chaque fois, les Américains sont allés intervenir... contre la Libye, dans le golfe de Sirte avec leur marine. Le golfe de Sirte, c'est un immense golfe que la Libye revendique tout à fait unilatéralement, puisque vis-à-vis du droit international, c'est les eaux internationales. Et parce que le golfe est beaucoup trop vaste pour qu'on revendique qu'il soit entièrement dans les eaux territoriales libyennes. Donc les Américains sont rentrés dans le golfe de Sirte conformément au droit international. Évidemment, les Libyens ont voulu s'y opposer et évidemment, ils ont perdu des bateaux. C'est une sorte de guerre. Donc, il n'y avait pas eu d'image parce que c'était en mer. On sait quand même qu'il y a eu une confrontation. En revanche, il y a eu de grosses manifestations organisées en Libye, des manifestations anti-américaines, anti-impérialistes et anti-européennes aussi. Les Anglais et les Français étaient visés de la même façon. Et ça, il y a eu plusieurs événements comme ça. Et puis, un jour, les Américains ont bombardé... Tripoli, après un attentat à Berlin, dont les Libyens ont été formellement accusés par la police allemande. Et là, c'était mon premier vrai coup, puisque j'ai bien travaillé et j'étais bien publié. J'ai eu plusieurs couvertures, j'ai eu de nombreuses doubles pages dans le monde entier, les plus grands magazines. C'est la première fois où je gagnais un peu d'argent, où je gagnais un peu ma vie sur un reportage et surtout où je me suis fait connaître finalement.
Oui, parce que quand même, ça devait être difficile financièrement, la période SIPA.
C'était extrêmement difficile, extrêmement difficile.
Ouais.
En plus, à SIPA, j'avais du mal à être payé. C'est-à-dire que SIPA, vous ne payez pas. Vous, ils vous devaient de l'argent, mais ils vous donnaient
un acompte.
La moitié de la somme avec un chèque, une autre moitié sous forme de traite, sur lequel vous avez à payer des agios, des frais, d'autres parties en AGSA, de toute façon, ce n'était pas payé en salaire. Et donc, c'était très compliqué. C'était fractionné. Quand on avait de l'argent, on ne pouvait pas compter sur cet argent. C'était assez, assez difficile.
C'est pour ça que tu es passé à Sigma ou c'est pour d'autres raisons?
Ah, c'était la principale raison. J'avais vraiment accès aux grandes news. Mais j'ai été coopté par les photographes de Sigma, par certains qui m'ont dit « Pourquoi tu ne viens pas travailler avec nous ?» etc. « On va parler de toi, machin. » Donc, à l'époque... C'est un peu désuet de dire ça aujourd'hui, mais à l'époque, on disait qu'on faisait ses classes à SIPA, ensuite on allait à Gamma, et au sommet de sa carrière, on allait à Sigma.
Oui, c'était ça le...
Et donc, c'était ça un peu le parcours. Oui. Voilà. En tout cas, le parcours de prestige, c'était ça. Et moi, le fait de passer directement de SIPA à Sigma...
Eh oui.
Bêtement, hein, ça a impressionné les gens. Les gens ont dit, oh là là, il saute une étape, ce qui était totalement ridicule, évidemment. C'est comme si j'avais sauté une classe.
Bien sûr. Oui, mais c'était l'ambiance de l'époque, c'est vrai. Sigma, quand tu y arrives, par rapport à SIPA, quelle est la différence?
Alors, tout de suite, l'organisation. L'organisation, la rigueur, le professionnalisme. SIPA, c'était joyeux, c'était le bordel, tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait, il n'y avait pas d'autorité. Mais on travaillait bien quand même. À Sigma, c'était l'organisation. Tout était à sa place, rigoureux. Le chèque tombait le jour où on recevait le relevé. Tout était en ordre. Ça fonctionnait super bien. Et donc, pour moi, c'était extrêmement rassurant et c'était un soulagement parce que ça me permettait de partir avec les idées, libérées de tous les soucis matériels que j'avais à SIPA. Et puis, surtout... j'avais totalement accès à l'ensemble de l'actualité internationale. Alors qu'à SIPA, il y avait encore des photographes qui couvraient, par exemple, l'Afghanistan. Je ne pouvais pas aller en Afghanistan, même après le départ des photographes, parce qu'il restait quand même des photographes qui couvraient l'Afghanistan, et donc je n'avais pas accès. Alors que là, j'ai enfin pu aller en Afghanistan une fois que je suis arrivé à Sigma.
Mais dans l'organisation de Sigma, qu'est-ce qui était le plus fort? C'était l'organisation pour partir sur les coups, c'était l'organisation de gestion des reportages?
Mais tout.
Tout.
Tout était beaucoup plus organisé. La rédaction en chef, il y avait toute une équipe. C'était très professionnel, c'était très... très sérieux, quoi. C'était vraiment, c'était une grande rédaction. À SIPA, c'était un peu l'artisanat, c'était le bricolage, c'était un peu l'anarchie, chacun faisait un peu ce qu'il voulait, tout ça. Là, il y avait vraiment, il y avait une espèce de concentration qui était utile à la prise des décisions.
Ce podcast a été enregistré par téléphone le 28 août 2023 par Michel Puech. La réalisation est de Jean-Louis Vinet avec la voix de Rose Monet et les musiques de Paz. C'est une production de l'association Journalisme et Photographie.